RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli, à la une, Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu.
Où des hommes du M23, soutenus par le Rwanda, sont dans la ville depuis vendredi. Hier, des habitants ont préféré fuir vers le Rwanda voisin. Reportage de Lucie Mouillot en début de journal. À la une aussi, des hommages risqués aujourd'hui en Russie pour rendre hommage à Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin, mort en détention il y a tout juste un an. Sujet toujours hautement sensible dans le pays, vous l'entendrez. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé hier en Israël. Il doit rencontrer aujourd'hui Benjamin Netanyahou pour évoquer notamment le plan de Donald Trump pour Gaza. Dans ce journal aussi, reportage auprès de la FINUL, la force de l'ONU au Liban, dont le rôle est primordial dans l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Et puis les castors, nos alliés face aux effets du changement climatique en République tchèque. Une famille de castors a permis la restauration d'une zone humide sur un ancien terrain militaire.
La première ministre congolaise, Judith Suminwa, alerte sur la situation humanitaire très précaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Une déclaration de Judith Suminwa à l'agence France Presse, alors que le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur du sommet de l'Union africaine hier, marqué notamment par la mise en garde d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, contre le risque d'escalade régionale. Hier, Emmanuel Macron a lui appelé à l'arrêt immédiat de l'offensive du groupe armé du M23 sur Bukavu, demandé le retrait sans délai des forces rwandaises soutenant le M23. Dans la capitale provinciale du Sud Kivu, la présence du M23, soutenue par le Rwanda, a été signalée dès vendredi dans la ville et à proximité, hier de l'autre côté de la frontière, à Rusizi, des habitants de Bukavu sont venus se réfugier. Reportage Lucie Mouillot.
Devant le poste de Rusizi 1, quelques habitants de Bukavu traversent la frontière malgré l'absence d'agents de l'immigration congolaise. Esther Marlène est étudiante. Elle est venue se réfugier chez des proches.
Ça fait très peur. Les gens ne sortent pas des maisons. Ils sont enfermés à la maison. Donc je vais d'abord rester ici un peu. Et si les mouvements recommencent à Bukavu, je rentre.
Pour atteindre la frontière, Lisa Mouchangaloussa a traversé une ville de Bukavu presque déserte, profitant du calme apparent pour se déplacer malgré quelques tirs sporadiques entendus jusqu'à Rusizi.
Tout est fermé. Tous les commerces, les boutiques, tout et tout. On a vu comment on a massacré nos frères et sœurs de Goma. On a peur que ça se passe de la même manière parce que personne ne peut vouloir que ce soldat lui arrive.
Certains se déplacent pour la deuxième fois en quelques semaines après avoir fui Goma pour se réfugier à Bukavu. Avec un simple sac sur le dos, Jano Mounkwa-Konkwa cherche encore où aller.
Jusque là, je ne sais pas quelle direction je vais prendre, mais je suis sûr que je suis en train de fuir. Ce n'est pas la première fois que je me déplace à cause des atrocités comme ça, des hostilités. Donc, s'il s'agit de parler de l'espoir du peuple, en tout cas, c'est difficile. Ce n'est pas le moment de dire qu'au Congo, nous avons un libérateur. Non, moi, je ne les vois pas.
Les passages transfrontaliers étaient bien moins nombreux que d'habitude ce samedi, face à l'incertitude sécuritaire et aux craintes de pillage dans Bukavu. Lucie Mouillot, Rusizi, RFI.
Et on parlait du sommet de l'Union africaine hier. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a été élu à la tête de la commission de l'UA. Le sommet se poursuit aujourd'hui, tout comme la conférence sur la sécurité de Munich qui s'achève ce soir. Hier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a appelé les Européens à mettre sur pied une force armée, à ne plus compter uniquement sur le soutien américain. Les Américains qui poursuivent leur discussion avec la Russie. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, s'est entretenu par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Marco Rubio, qui annonce également que des hauts responsables de l'administration américaine vont rencontrer en Arabie Saoudite des négociateurs russes et ukrainiens.
La Russie, ou évoquer son nom ou son organisation sans y accoler le terme extrémiste, expose à des sanctions.
Et d'autant plus aujourd'hui, date anniversaire du décès d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin, décédé il y a un an jour pour jour dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Pour saluer sa mémoire, il faudra donc braver les autorités. Des chaînes Telegram favorables au Kremlin ont d'ores et déjà mis en garde les partisans de l'opposant, leur déconseillant de se rendre au cimetière de Moscou où il est enterré. Car en Russie, Alexei Navalny est toujours un sujet ultra sensible. Journaliste et écrivain Philippe Dziatko a bien connu l'opposant. Il estime que sa mort n'a fait que renforcer son message.
Je pense qu'ils avaient peur d'Alexei Navalny vivant et ils en ont peur maintenant qu'il est mort. Les autorités en ont tellement peur qu'elles ont même envoyé en prison ses avocats. Des journalistes sont aussi en prison parce qu'ils ont parlé de lui. Je pense que les mots d'Alexei Navalny, si je suis tué, cela signifie que nous sommes plus forts que jamais, ça ne sont pas que des belles paroles. C'est aussi un fait dans le sens où son meurtre est le résultat de la peur. Mais je considère qu'Alexei Navalny ne combattait pas Poutine. Pendant une bonne partie de sa vie, il a effectivement combattu le régime de Poutine. Mais les derniers mois avant sa mort, j'ai le sentiment qu'il n'était plus question de Poutine, mais plutôt d'histoire. Il dialoguait avec l'histoire, la grande histoire. C'est pourquoi lorsque nous parlons de lui, on ressent de l'espoir, parce que notre pays traverse des années terribles. Mais si nous connaissons l'histoire, nous savons que tout change et nous croyons en l'avenir. Et en ce sens, Navalny restera l'homme de l'avenir, l'homme de l'histoire.
И мы верим в будущее. И в этом смысле Навальный человек будущего, человек истории.
Le journaliste et écrivain Philippe Dziadko, joint par Anastasia Becchio.
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio est arrivé hier soir en Israël.
La première tournée au Moyen-Orient, Marco Rubio qui doit discuter du plan de Donald Trump d'occupation de la bande de Gaza, plan qui prévoit également l'expulsion des Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Il rencontre aujourd'hui Benjamin Netanyahou au lendemain de la libération de 3 otages israéliens retenus à Gaza contre 369 prisonniers palestiniens, et alors que l'accord de trêve a bien failli voler en éclats cette semaine. À Jérusalem, Michel Paul.
Marco Rubio veut tenter de persuader ses interlocuteurs israéliens de faire avancer les négociations sur la phase 2 de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, avec pour objectif, selon le département d'État, la libération de tous les otages et notamment ceux qui possèdent la nationalité américaine. Israël, de son côté, après l'ultimatum lancé par Donald Trump, qui a provoqué un certain embarras du bureau du Premier ministre, propose lui d'accélérer la première partie de l'accord pour obtenir la libération cette semaine encore de 6 otages toujours vivant. Les médias en Israël citent également des propos du secrétaire d'État américain. Selon Rubio, reprendre la guerre à Gaza ne mettra pas fin à la menace du Hamas sur Israël. Et hier soir, à l'issue d'une réunion sécuritaire en amont de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, Benjamin Netanyahou a dit apprécier le soutien total de Donald Trump et son intention aussi de convoquer une réunion du cabinet de sécurité pour décider des prochaines étapes. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Au Liban, à présent, l'armée israélienne doit se retirer du sud du pays d'ici mardi.
Et en vertu de l'accord de cessez-le-feu qui a permis d'arrêter les combats entre Israël et le Hezbollah fin novembre, l'accord prévoit aussi que le Hezbollah se retire donc du sud Liban au profit de l'armée libanaise, avec le soutien des casques bleus de la force de l'ONU, la FINUL, élément central de cet accord de cessez-le-feu. À Nakoura, le dernier village côtier libanais avant la frontière israélienne, notre correspondante Sophie Guignon a pu se rendre au siège de la mission.
À quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël, le siège de la FINUL, qui compte une cinquantaine de bases et plus de 10 000 hommes répartis au sud du Liban. Pour Candice Ardriel, la directrice adjointe de la communication de la force de l'ONU, il faut que tous les acteurs accélèrent la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu.
Les forces armées libanaises se déploient. Elles se sont redéployées dans plusieurs villages. Nous les pressons d'agir plus rapidement. Nous exhortons aussi l'armée israélienne à se retirer plus vite afin de leur permettre d'entrer et de prendre leur place. Mais nous constatons des progrès.
Sur les hauteurs du siège de la FINUL, Nakoura a été en première ligne de la guerre. Malgré sa proximité avec les positions des casques bleus, ce village de 3000 habitants est aujourd'hui un champ de ruines, détruit à plus de 90%.
Nous avons constaté que la situation s'est calmée et nous avons également observé beaucoup de destruction dans les villages causées par l'armée israélienne entre-temps, ce qui est évidemment très bouleversant pour les personnes qui souhaitent simplement retourner chez elles et retrouver leur maison.
Des soldats israéliens sont encore présents sur 5 points le long de la frontière, dont l'un sur les hauteurs de Nakoura. La France a proposé que la FINUL s'y déploie pour un retrait, je cite, complet et définitif. Sophie Guignon, de retour de Nakoura, RFI.
Et la FINUL, dont l'un des véhicules a été incendié vendredi soir, un commandant adjoint de la FINUL et un casque bleu avaient été blessés. C'était lors d'une manifestation de partisans du Hezbollah. Les autorités libanaises ont annoncé hier l'arrestation de plus de 25 personnes.
Cette polémique polémique à présent qui vise le président argentin Javier Milei.
Il est vivement critiqué pour avoir vanté une crypto-monnaie qui s'est ensuite effondrée peu de temps après. Selon des spécialistes, il pourrait s'agir d'une escroquerie lors de laquelle les développeurs d'une crypto-monnaie abandonnent le projet en prélevant les actifs levés auprès des investisseurs. Les médias locaux ont affirmé que le message de Javier Milei était resté en ligne pendant plusieurs heures vendredi soir avant d'être supprimé.
Aux États-Unis, le conseil d'administration d'OpenAI a rejeté à l'unanimité l'offre de rachat lancée en début de semaine par Elon Musk.
Mais ce n'est pas une surprise tant les relations entre le patron de X et la maison mère de ChatGPT sont mauvaises. Sam Altman, le patron d'OpenAI, avait d'ailleurs tout de suite décliné publiquement cette offre, mais cela ne veut pas dire qu'Elon Musk n'a pas réussi son coup, Justine Fontaine.
Car quand il a proposé de racheter OpenAI, le milliardaire savait très bien que l'entreprise n'était pas à vendre. Musk a participé à la création du projet, puis est entré en conflit avec Sam Altman sur la forme que devrait prendre l'entreprise. Le patron de Tesla a finalement claqué la porte en 2018 et présenté des recours en justice. Aujourd'hui, la maison mère de ChatGPT a deux branches, une branche à but lucratif et une fondation à but non lucratif. Pour lever plus d'argent et convaincre de nouveaux investisseurs, elle veut devenir une entreprise à but lucratif classique. Et pour cela, les propriétaires actuels doivent indemniser la fondation. Une indemnisation qui était estimée officieusement autour de 40 milliards de dollars. Or, Elon Musk semble avoir voulu faire monter les enchères, puisqu'il propose près de 100 milliards. Pour des raisons légales, OpenAI risque désormais de ne pas pouvoir proposer une compensation plus faible que ce montant, de quoi entraver les plans de développement financier de l'entreprise, ce qui est peut-être précisément ce que cherchait Elon Musk.
Justine Fontaine.
Enfin, on le surnomme l'architecte de nos rivières.
Le castor européen nous rend des services écologiques fabuleux et il vient de le prouver une nouvelle fois en République tchèque. Une famille de castors a fait économiser plus d'1 million d'euros aux contribuables en restaurant une zone humide sur un ancien terrain militaire. Explication, Lucille Gimbert.
Classé aire protégée en 2016, cet ancien site militaire au sud de Prague devait être réaménagé en zone humide. Les autorités comptaient y former des méandres, plusieurs étangs notamment, pour réduire la sédimentation et freiner l'écoulement. Mais les autorisations ont pris du retard et avant qu'arrivent les machines, une famille de castors s'était chargée de l'affaire. L'agence tchèque pour la protection de la nature explique que les rongeurs palmés ont construit des piscines, des canaux, plusieurs barrages, bref, une zone humide presque deux fois plus grande que celle prévue par les humains. Le castor d'Europe est un véritable ingénieur de nos rivières et un allié très efficace face aux effets du changement climatique. En creusant des cavités dans les rives, en construisant des barrages perméables avec des troncs et des branchages qu'il coupe et transporte dans l'eau, ce poilu nocturne crée des retenues d'eau qui réhydratent certains espaces autour des rivières et freine l'écoulement. Ainsi, il atténue les crues violentes et nous protège des inondations. Son travail améliore aussi la qualité de l'eau et la recharge des nappes phréatiques. Et ça, c'est bien contre la sécheresse.
Lucille Gimbert et vive les castors.
Oui, raison de plus de les protéger. Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. Et tout de suite, la revue de presse avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec à la une la minorité alaouite victime de violences en Syrie.
Les alaouites, première victime du pouvoir, titre Marianne, qui est allée à la rencontre de cette minorité qui représente environ 10% de la population syrienne. Une minorité qui souffre d'un double anathème, nous dit l'hebdomadaire. Le clan Al-Assad en était issu et les plus fondamentalistes du régime actuel la considèrent comme apostat. L'envoyé spécial de Marianne s'est rendu à Fal, dans l'ouest du pays. Fal, une bourgade de 16 000 habitants, tous alaouites, perchés à 800 mètres d'altitude, dans une vallée en terrasse où, nous dit-on, l'on cultive la pomme et l'olive. C'est dans cette petite ville qu'ont débarqué le 23 janvier dernier plus de 150 hommes lourdement armés, diffusant les chants religieux chers aux djihadistes, raconte Abou Moataz, un dignitaire de la bourgade. Ils ont fouillé le village, fouille qui a duré une grande partie de la journée avant de virer au pillage de maisons. Le soir, poursuit Marianne, les habitants ont fait une terrible découverte dans un champ à l'entrée du bourg. On a trouvé des corps, raconte Abou Moataz. Certains avaient le crâne complètement enfoncé, d'autres avaient été égorgés. Les autorités de transition menées par Ahmed El-Sharaa prétendent faire tout leur possible pour assurer la sécurité et la concorde entre les citoyens syriens sans faire de distinction, précise Marianne qui remarque Leur argument s'effrite pourtant devant les nombreux témoignages recueillis.
Dans la presse hebdomadaire également, des Américains traumatisés.
Washington est en état de choc face à la grande purge, nous dit le Nouvel Obs. En moins de 3 semaines, Donald Trump a mis à terre la bureaucratie fédérale. Au cœur de la manœuvre, Elon Musk, qui applique à l'État sa méthode éprouvée dans ses usines Tesla et lors de son rachat de Twitter. On est pétrifié, reconnaît un fonctionnaire. Impossible de recueillir des témoignages à visage découvert, explique le Nouvel Obs. Il faut taire les noms, les fonctions et les services. Tous les fonctionnaires racontent la même histoire, une gigantesque purge, une révolution à la russe. Personne n'avait imaginé que le duo infernal taperait si vite, si fort, explique le Nouvel Obs.
Le Point, de son côté, note que la colère commence à se faire entendre.
Elle se fait entendre lors de manifestations quasi quotidiennes à Washington, remarque l'hebdomadaire. Parmi les slogans, Musk doit s'en aller, jeter le ventôle. Il y a aussi ces vidéos parodiques sur les réseaux sociaux où l'on pratique l'humour noir. L'Allemagne des années 30 est à nouveau cool. Satan est nommé à la tête de la commission d'éthique, ou encore, c'est officiel, les gays n'existent plus. Plus sérieusement, certains juges tentent de résister. Le Point nous parle d'une avalanche de procès dans les tribunaux où les juges sont hostiles à Trump, à Boston, New York ou Washington.
Dans la Tribune dimanche, Catherine, une chronique a attiré votre attention.
Oui, c'est la chronique « Votre argent » du médiatique spécialiste des marchés financiers Marc Fiorentino. Chronique sobrement intitulé « Ce que changerait la paix en Ukraine ». Eh bien, la démonstration est toute simple. Si Trump arrive à ses fins, nous dit Marc Fiorentino, les conséquences économiques et financières seront assez claires. Baisse du prix de l'énergie, accélération du recul de l'inflation, reprise modeste certes, mais reprise tout de même de la croissance allemande et européenne, etc., etc. Les conditions de la paix sont brutales pour l'Ukraine, reconnaît Marc Fiorentino, mais nous dit-il, Trump est déterminé. Autant donc se frotter les mains tout de suite. Les investisseurs, explique le spécialiste des marchés financiers, commencent à se positionner sur ce scénario qu'ils jugent positif. Taux, actions, placements immobiliers. La paix en Ukraine n'aurait donc que des avantages pour notre porte-monnaie. Une vision du monde quelque peu étriquée.
Et sans rougir. Enfin, une mise en garde pour les enfants et surtout les parents.
Une mise en garde sur le temps d'écran, du temps volé à l'enfant. Met en garde donc la pédiatre Sylvie Dieu-Ozica dans le Nouvel Obs. Du temps volé, explique-t-elle, à son sommeil, son activité physique, ses interactions avec les adultes. Ce sont parfois des années de vie perdues. Selon cette pédiatre, les enfants ne devraient pas être exposés aux écrans avant l'âge de 3 ans. Une recommandation gouvernementale que seuls 10% des parents français respectent. Aujourd'hui, conclut Sylvie Dieu-Ozica, on trouve choquant qu'un adulte fume à côté d'un enfant. J'aimerais qu'un jour, on trouve également choquant de voir des parents confier un téléphone à un tout petit.
Merci Catherine Potet, très bon dimanche.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et le parti Les Républicains va-t-il renouer avec ses vieux démons? Une intense bataille pour la présidence du parti se dessine entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui se sont déclarés candidats cette semaine. L'enjeu est important car le vainqueur sera bien placé pour se présenter en 2027. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
Ce duel annoncé devrait être rude.
Oui, dès mercredi, Bruno Retailleau a pris les devants en déclarant sa candidature 24 heures avant son rival dans la foulée. L'entourage de Laurent Wauquiez a fait savoir que le ministre de l'Intérieur prenait, je cite, « la lourde responsabilité d'ouvrir une guerre des chefs ». Les relations entre les deux hommes ont atteint une rupture. Elle est apparue au grand jour la semaine dernière après un dîner au cours duquel Laurent Wauquiez a tenté de dissuader Bruno Retailleau de partir dans la course, lui rappelant qu'un pacte existait entre eux. La droite au gouvernement devait être incarnée par le Vendéen, la future droite à l'Élysée par Laurent Wauquiez. Si l'entourage de Bruno Retailleau dément l'existence d'un tel accord, on comprend que Laurent Wauquiez pensait avoir une route dégagée et que son concurrent lui a coupé l'herbe sous le pied.
Face à la situation politique particulièrement mouvante, Laurent Wauquiez s'était montré particulièrement prudent jusqu'ici.
Oui, rappelons-le, LR n'a toujours pas de chef depuis le départ fracassant d'Éric Ciotti, parti nouer une alliance avec le RN. Depuis, Laurent Wauquiez semble tergiverser cet été au Montmézin. Il annonce, aux côtés de Bruno Retailleau, une opération refondation de la droite, mais rien ou presque ne s'est passé depuis. Pas de date de congrès, pas de ligne politique clairement définie, des refus répétés également d'entrer au gouvernement, comme s'il attendait le bon moment pour sortir du bois. C'est un cérébral, il réfléchit beaucoup, parfois trop, résume un ancien cadre du parti, car pendant ce temps, même sans direction claire, la marque LR reprend des couleurs, notamment à travers Bruno Retailleau, ministre le plus populaire du gouvernement. Il laisse une empreinte très forte auprès de la France de droite, se convainc un ministre. Outre les sondages, LR enregistre également de bons résultats dans des élections partielles. Bref, un alignement des planètes pour Bruno Retailleau, qui, voyant Laurent Wauquiez tarder, tente de faire quelque chose de cette popularité. À court terme donc, prendre le parti, et à long terme, incarner LR pour la prochaine présidentielle.
Et alors, qui est le favori ?
Pour l'instant, Bruno Retailleau est devant Laurent Wauquiez dans les enquêtes. Il a également le soutien de poids lourds comme Xavier Bertrand ou Gérard Larcher. Chez Wauquiez, ça se compte sur les doigts d'une main, estime un soutien du Vendéen. Mais l'ancien président de région est aussi réputé combatif, voire teigneux. Dans une interview au Figaro cette semaine, il lance de premières flèches. Il voit par exemple, dans son absence au gouvernement, un atout. Il ne s'estime notamment pas lié à François Bayrou. Il peut de surcroît entraver l'action gouvernementale puisque, rappelons-le, il préside le groupe des députés LR à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez tente aussi de jouer la montre. Ses proches, à grand renfort de juristes, ont imposé au parti 3 mois de campagne. Les scrutins internes apportent toujours leur lot de surprises, surtout à droite, où les guerres fratricides laissent souvent du sang sur les murs.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Et ce dimanche, un chemin d'écriture entre rire, ironie et un soupçon de fantastique avec 16 nouvelles sous la plume de la talentueuse écrivaine martiniquaise Gaëlle Octavia, autrice de théâtre, romancière, nouvelliste. Cette dernière a plusieurs titres à son actif, mais elle s'est fait connaître en publiant en 2017 son premier roman. Son recueil « L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles » vient de paraître aux éditions Continent Noir et il est à notre menu ce matin. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquel-Joem. Bonjour à toutes et à tous.
Pour commencer, la voix de l'autrice.
La nouvelle, c'est vraiment un genre littéraire que j'aime beaucoup. Certaines des nouvelles de ce recueil ont été écrites il y a un certain nombre d'années. D'autres sont très récentes. J'ai sélectionné, parmi toutes les nouvelles que j'ai écrites, celles qui me semblaient avoir un fil directeur commun, finalement, qui est cette étrangeté des situations ou des manières dont les personnages font face à certaines situations.
Ainsi parle Gaëlle Octavia, auteur de « L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles » qui vient de paraître ces jours-ci. Les 16 nouvelles que compte ce recueil sont autant de diamants taillés, denses, lumineux d'observations sur la société martiniquaise, ses hommes et ses femmes. Il s'agit ici surtout de femmes, car la plupart des nouvelles sont centrées autour des figures de femmes au bord de crise de nerfs. La nouvelle inaugurale qui a donné le titre du recueil illustre tout l'art de cette autrice.
Cela mérite une explication de texte, Tirtankar.
En fait, Gaëlle Octavia pratique un art de narration au second degré. Je m'explique. Mathilde T., la protagoniste de sa première nouvelle, est l'héroïne d'un roman raté. À travers les excès, la fragilité, sa manière de se situer de façon décalée par rapport au monde dans lequel celle-ci évolue, l'auteur raconte sa propre négritude, son être dans le monde réduit à son accent martiniquais et à son exotisme sévèrement jugé par le monde blanc dans lequel elle a choisi de vivre. Gaëlle Octavia.
Ce personnage de Mathilde T m'est venu lors de mon arrivée à Paris, puisque moi j'ai grandi en Martinique, je suis arrivée à Paris après le bac pour faire mes études. C'est une nouvelle qui est, on va dire, semi-autobiographique. Je me suis heurtée à un double décalage, c'est-à-dire le décalage de ma propre perception de moi-même en tant qu'issue d'un département d'outre-mer français. Donc en gros, j'ai grandi en me pensant française et j'ai découvert à Paris que j'étais peut-être pas si française que ça. Et puis l'autre décalage, c'était que cette étrangeté qui était la mienne finalement, dans le regard des autres, elle m'allait très bien. ans. L'étrangeté est à plusieurs niveaux dans cette nouvelle et je me suis beaucoup amusée, j'avoue, à l'écrire.
Thierry Tancard, vous nous le disiez, les femmes occupent une place centrale dans ces nouvelles.
Profondément marquée par les lectures de Maryse Condé, de Toni Morrison ou encore de Marguerite Duras, Gaëlle Octavia a fait de son écriture un véritable panthéon dédié aux femmes de son pays et à leur combat contre la société patriarcale. Gaëlle Octavia.
Moi, je me définis absolument comme une féministe. Le point de vue féminin, ça c'est très présent dans mon éducation. J'ai grandi dans un foyer avec un père très présent. C'était un père qui s'occupait de ses enfants. Quand je sortais de chez moi, je voyais beaucoup de foyers où c'était pas ça. Ou notamment beaucoup de foyers où il y avait tout simplement pas de père. Ça m'a très vite amenée à m'interroger sur ce que ça signifiait, tous ces foyers sans père, ce mythe notamment du potomitan que je m'applique à déconstruire de texte en texte. Il y a vraiment ce mythe de la femme qui porte sa famille et qui porte la société d'une certaine manière et qui serre les dents et qui ne pleure pas. Et moi, je voyais beaucoup de femmes qui n'y arrivaient pas, qui déprimaient. Pour moi, c'était une urgence d'évoquer ça.
C'est ce qu'on appelle la littérature engagée, la fidélité sans faille de Gaëlle Octavia aux femmes de la Martinique se lit jusque dans les titres de ses ouvrages. Ce n'est sans doute pas accidentel si son premier roman s'appelle « La bonne histoire de Madeleine Demetrius », suivi de « La fin de Mam Baby », titre de son second roman. Je vous laisse, Julien, rappeler le titre de son anthologie de nouvelles.
« L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles » et c'est signé Gaëlle Octavia. Merci Thierry Tancard. Et avant le prochain journal, notre reportage culture à Berlin, alors que la Berlinale se poursuit, le Festival international du film, 19 films en compétition pour l'Ours d'Or. La Berlinale, aussi connue pour son marché du film, le deuxième plus important au monde après Cannes. Et depuis 3 ans, l'European Film Market abrite un nouvel événement, l'Afro-Berlin, qui réunit pendant 3 jours cinéastes et producteurs du continent. Elisabeth Le Quéret.
Des tables rondes, des présentations de projets, un laboratoire de coproduction. Ce samedi, le cinéma africain est arrivé en force à la Berlinale. Réalisatrice camerounaise Cyrielle Ringou est ici pour boucler le financement de son nouveau long métrage. Pour toi, je reviendrai et le portrait d'une jeune mère qui gagne sa vie en trafiquant avec les terroristes de Boko Haram.
On pense complètement à intégrer l'Afrique anglophone et on est déjà pas mal avancé dans un partenariat avec l'Afrique du Sud. Et là, on essaie maintenant d'établir un contact avec le Nigeria. Et le Nigeria, c'est un pays voisin et aussi touché par les attaques terroristes. Donc, on a une culture et pour moi, c'est normal qu'on travaille en partenariat avec eux.
Adama Konkobo est producteur. Depuis 1 an, il dirige la commission ivoirienne du film.
Nous allons présenter les atouts de la Côte d'Ivoire. En 2024, nous avons, pour toute production confondue, nous avons accueilli un peu plus de 5 tournages, dont le plus important, c'est Les Damnés de la Terre de Jean-Pascal Zadi, produit par Gaumont. Là, nous venons de boucler le tournage de Zeka La Plaine, qui est un réalisateur producteur congolais de Kinshasa et qui a tourné à Grand Bassam, qui sortira très bientôt.
Enrico Chiesa est responsable du département cinéma de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année, l'OIF organise un panel sur le thème de la souveraineté culturelle.
Le cinéma est un art qui est très cher et souvent il n'y a pas de financement au Sud. Donc l'OIF intervient de 2 façons principales, soit en aidant directement les cinéastes et les producteurs africains avec des subventions directes, soit en aidant dans les pays qui en ont la volonté politique des fonds à s'affirmer et à se développer dans certains pays, ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Rwanda.
C'est justement un premier long métrage rwandais qui a été retenu cette année au Forum, l'une des sections parallèles de la Berlinale. Après une 20aine de courts-métrages remarqués dans les festivals du monde entier, Philbert Mwabazi y suit les pas d'une jeune chanteuse de bar de Kigali, confrontée à la mort de son compagnon. Un portrait vibrant, sensible et poignant d'une jeunesse africaine à la recherche de repères, mais dont la vitalité semble à l'image du renouveau des cinémas du continent. Elisabeth Le Quéret, Berlin, RFI.
Notre reportage culture à retrouver sur notre site RFI.fr et l'info qui revient dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
En France, les idées d'extrême droite ont envahi les débats politiques et médiatiques. La fachosphère, née sur Internet et les réseaux sociaux, se serait frayée aussi un chemin dans les médias, notamment ceux détenus par le milliardaire français Vincent Bolloré. C'est ce que racontent les journalistes Maxime Massé et Pierre Plotu, auteurs du livre Pop Fascisme. Rendez-vous tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI, dans l'atelier des médias.
Musique du monde. Laurence Alloire.
Mario Lucio et le groupe Cotonnet sont nos invités. Mario Lucio, musicien et ancien ministre de la Culture du Cap-Vert, fête le 50e anniversaire de l'indépendance de l'archipel avec le disque Indépendance. Et c'est au studio de l'Ermitage que nous avons enregistré les Français Cotonnet qui célébraient Victoire de la musique, le nom de l'album, des super vilains qu'on adore.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI. BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, nous allons voyager en chanson au Ghana, au Venezuela ou encore au Portugal pour répondre à cette question cruciale. Comment la notion de freestyle a-t-elle évolué dans l'histoire du rap? Tout ça avant de partir en live à Madagascar.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.